Bienvenue ici. Ici, avec vos pieds. Ici, avec vos oreilles. Avant de commencer la balade, prenez le temps de régler votre volume sonore.
Why don't you print your name? Print your name right next to mine. Right next to it. Print your name. Print your name. Print your name right next to mine. Right next to it.
Ne vous coupez pas complètement de l'environnement sonore qui vous entoure. Vous devez pouvoir entendre clairement ma voix, mais aussi une voiture qui passe, ou la voix de quelqu'un qui aimerait vous parler. Vous y êtes? Alors votre écoute va pouvoir se mettre en marche. Au cours des premières minutes, vous allez entendre des pas. Essayez de caler votre rythme de marche sur ces pas. Ils vous donneront le tempo de la promenade. À tout à l'heure.
On part dans quelques minutes. C'est ma voix que vous allez suivre. Là, tout de suite, profitez de la place pour entrer dans l'histoire du village. Vous êtes devant l'hôtel de ville de la Bouilladis, 5700 habitants. Et c'est une dizaine d'entre eux qui vont vous la faire visiter et vous la raconter.
À pouce,
je le vois de temps en temps.
Ah oui?
Ah oui. Eh ben, il aura fallu attendre 1880 pour qu'on soit enfin chez nous à la Bourrime.
Ça fait 27 ans que ça
s'est avec notre école, notre mairie et notre gare, bien au centre du village. Il y en avait marre de marcher pendant des heures et des heures sur des mauvais chemins pour aller déclarer nos morts et nos pitchouns là-bas.
Vous êtes un jeune homme, plus 86.
Moi, Jean-Baptiste Michel, maire de la Bourrine, est inscrit à l'ordre du conseil municipal de ce jour, 26 mai 1909, le changement de nom de la commune. La Bourrine deviendra la Bouilladis. Et après un tour de table passionné, le changement de nom a été voté à l'unanimité. Et le 20 janvier 1910, la Bouilladis est née.
On laisse derrière nous la mairie. On prend la grande route sur la gauche.
Où il y a la bibliothèque maintenant, la médiathèque maintenant. Là, il y avait des lavoirs, d'anciens lavoirs. Parce que les dames, ici, à la Bouilladis, il y en avait très peu qui travaillaient. C'était toutes des femmes de mineurs. Et à l'époque, on disait femmes de mineurs, femmes de seigneurs. Parce qu'elles ne travaillaient pas. Les mineurs gagnaient bien leur vie et les femmes étaient à la maison. Et donc, bon, elles prenaient leur linge, elles venaient faire ce qu'on appelle la bugade. On pouvait faire bouillir, chauffer de l'eau avec la lessive. À l'époque, ils mettaient le lessif, enfin bon, ils mettaient pas mal de trucs, ils faisaient blanchir leur linge. Et après, elles rinçaient dans le lavoir. Alors, elles lavaient leur linge blanc, bien entendu. Et après, elles lavaient leur linge de couleur. Et le linge de la mine. Mais comme il y avait toujours des dames qui se querellaient entre elles. Il y en avait, pour embêter les autres, elles lavaient, quand les autres lavaient et rinçaient le linge blanc, elles lavaient le linge de la mine, dont le linge ressortait tout noir. Et c'était des bagarres. C'était des querelles. Et plus d'une fois, il y en a une qui s'est retrouvée dans le lavoir. Vous voyez ? Ah oui.
C'est tout droit, sur cette route qui change trois fois de nom. De Bigaron, elle devient Avenue de la Libération pour devenir avenue Messieurs Boyer.
Alors Messieurs Boyer, c'est lié intimement avec ce que nous allons découvrir tout à l'heure, c'est le centre culturel.
C'est tout droit.
Alors le centre culturel, à l'époque, c'était une usine, une fabrique. Une fabrique de plans de chasse et de soude, qui était la propriété des fils Boyer, les frères Boyer qui étaient quatre. Et ils fabriquaient aussi du vinaigre avec du bois, du vinaigre blanc. Ce vinaigre, il était transporté ensuite à Roquevert pour mettre les capres. Mais en plus, ils avaient beaucoup de vignobles et ils faisaient un fameux vin cuit qui était renommé dans toute la France. On a même retrouvé des publicités dans le nord de la France pendant la guerre de 14. Le fameux vin cuit de la Bouillanise. Mais ces pauvres Boyer ont fait prospérer cette usine d'une façon assez importante. Ils avaient des attelages, ils avaient beaucoup d'employés. Et puis, il y a eu deux affaires qui les ont précipités à la faillite. Premièrement, je veux dire, leur comptable de l'époque a été de mauvais conseil. Ils ont commencé à perdre beaucoup d'argent. Et secondo, il y a eu la guerre de 1870, qui était la catastrophe au niveau national. Et en même temps, cette guerre de 1870 a été marquée au niveau agriculture par la crise du phylloxéra. Le vignoble provençal a été complètement détruit en 1871. Et les Boyer, plus de vignes, plus de vins cuits.
Au niveau de l'arrêt du bus, que vous allez bientôt voir, remontez vers la colline sur votre droite par l'avenue Jean Slimane.
Tout a été vendu aux enchères. Et le centre culturel, qui était une usine, était abandonnée. Elle a été héritée par le comte du Verclos. C'était un comte qui habitait sur la commune de Pépin, non loin de la Bouillardise. Et ce comte du Verclos, qui était un des propriétaires des mines de Valdonne, n'a pas souhaité continuer la gestion de l'usine. Donc ils ont confié cette bâtisse au curé, à l'église. Et l'église, bien entendu, ils ont utilisé ce bâtiment pour en faire, bien sûr, une école privée. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 1870, quand l'usine a été abandonnée, nous n'étions pas encore commune autonome. Nous sommes été autonomes que le 6 juillet 1880. Donc nous sommes déjà 10 ans en avance. Il n'y a pas d'école publique, ni d'école laïque à la Bouillanise. Il n'y a que des écoles privées.
Au niveau de l'arrêt du bus, remontez vers la colline sur votre droite par l'avenue Jean Slimane. C'est drôle, c'est une toute petite rue cette avenue. Elle tournicote, on la suit.
Et l'école privée, parce que dans l'usine il y a beaucoup de travaux à faire, elle ne sera ouverte qu'en 1893, donc 4 ans plus tard. Et cette école, malgré l'interdiction et puis la séparation de l'Église et de l'État, après, en 1905, a continué à tourner jusqu'à la guerre de 14. À la guerre de 14, elle ferme définitivement cette école privée. Et on installe dans l'école privée les sœurs, les religieuses. Il y avait 4 religieuses et on faisait le catéchisme. Les religieuses avaient un rôle important au niveau social. Elles faisaient un peu les infirmières aussi. Elle soignait les gens parce que c'était une population très laborieuse. Nous comptions à la Bouillanise pratiquement que des mineurs de fond qui travaillaient aux mines de la Bouillanise, à Gréasque, etc. Et ils n'avaient pas de sécurité sociale avant la guerre, bien entendu, et c'était les sœurs qui faisaient les soins, les pansements, les piqûres, etc. Donc on avait une espèce de mainmise de l'église sur la vie du village, et c'était un antagonisme permanent puisque la municipalité était toujours de tendance. À gauche, c'était à l'époque à la CFIO, puis elle est devenue communiste beaucoup plus tard.
Par là, nous allons au centre culturel. Il sera en surplomb, sur votre gauche. Juste après le 15 de la rue, il y aura un petit escalier qui monte.
Donc, à l'issue de la Libération, on va appeler le centre culturel pour se repérer, mais c'était le patronage. Nous, on appelait le patronage. Donc, on va arriver au centre culturel dans une bâtisse qui a tourné jusqu'à dans les années 1975. Ce n'est pas vieux. Et puis progressivement, les religieuses, elles ont disparu, manque de vocation. Et ce bâtiment a été un petit peu à l'abandon, il était squatté. Et puis un jour, le curé m'appelle. Et c'est l'abbé Valori, on était très amis d'ailleurs. Il me dit, Francis, il y a des gens qui veulent acheter le patronage et ils veulent en faire un hôtel, qu'est-ce que tu en penses? Je dis, mais si vous le vendez, la mairie achète. Et c'est ainsi que nous avons acheté le patronage, l'ancienne usine au Boyer.
Vous voyez les gros murs de pierre sur votre gauche? Ils annoncent le centre culturel. Prenez-le. Allez-vous devant la bâtisse et admirez. On est face au paysage.
Ah là là, mon village gourmandise pas de mal. Si on me dit, celui qui me dit du mal de mon village, il a pas le dessus, vous savez. Je peux me montrer virulente avec lui.
En partant de l'Est, le Riganias d'abord, le massif du Riganias.
Il ne faut pas en dire du mal. Moi, la Bouilladie, c'est pour moi. Voilà, je la vois. Je vais vous dire comment je la vois.
La Sainte-Baume, toute la chaîne, qui continue jusqu'au pic de Bretagne, au Dent de Roc à Fourcade.
C'est un bijou pour moi. C'est un bijou dans un écrin de verdure.
Après, il y a la trouée de la vallée de Luvonne. Et on remonte sur Garlaban.
Parce que quand on la regarde de n'importe quel côté, on voit ce petit village entouré de collines, entouré de verdure. Alors moi, pour moi, c'est un écrin, et mon village est dans un écrin, donc c'est un bijou.
Et des arbres.
On quitte le centre culturel par le petit portail bleu qui est sur votre gauche. On reprend la rue sur la gauche. Maintenant, c'est à droite pour descendre jusqu'au stop. Et là, à gauche, en direction du jardin public.
Nous habitions à Marseille et nous allions chez les beaux-parents à Vinon-sur-Verdon. Et pour ça, on traversait le village de la Bouilladis. Et je m'entends encore dire à mon épouse, nous n'habiterons jamais dans ce village. Ouais, je sais, ouais, il faut jamais dire jamais. Un an après, nous étions installés dans notre maison. Les nécessités et les hasards de la vie nous ont conduits vers les associations. Mon épouse au sport avec les enfants et moi au centre culturel naissant. Depuis 1982, musique, sport, loisirs et culture s'y mélangent. 15 années d'investissement et de satisfaction avec d'autres bénévoles devenus bien vite des amis. Cela s'est prolongé, se prolonge encore sous d'autres formes. Un village et sa population ne se livrent pas facilement. Il faut savoir, avec patience et respect, écouter, apprendre, comprendre pour en ouvrir les portes et les cœurs.
On va au jardin public. On y rentre. On trouve une petite place. Et on s'assoit. C'est dans la maison au fond du jardin qu'est installé le CCFF, le comité communal des feux et forêts.
C'est après le feu de 79 qu'il y a quelques personnes du Pigeonnier et des Boyers qui se sont dit qu'il faudrait surveiller la colline. Mais le comité, officiellement, il est né en mai, je crois, mai au printemps 83. On avait fait une vigie sur la crête derrière le Pigeonnier, là, et de là, on surveillait. Avant ça, l'été, on avait toujours une quinzaine de personnes qui brûlaient. On était obligé d'intervenir. Une fois qu'on a fait la vigie, il n'y avait plus personne qui brûlait. Parce qu'ils nous voyaient là-haut. Sinon, après, le reste, il faut être une équipe de copains. Parce qu'on est des bénévoles. Et des fois, l'été, c'est pas marrant de se promener toute la journée dans la voiture avec 40 ou 50 degrés dedans, là, pour rendre que ce soit un endroit agréable ou un bien. Vous savez, j'ai un souvenir, après le feu de 79, qui a brûlé tout le nord de la commune, là. Quand le matin, je me suis levé, toute la nuit, on a lutté contre le feu, mais le matin, quand je me suis levé, que j'ai vu tout noir, c'est dur. Voilà.
Repart en revenant sur nos pas, et puis ce sera tout droit, on descend la rue pour aller en direction de la poste.
Alors je suis arrivée à la Bouilladis en 2006. Après 10 ans passés à Paris, j'ai été mutée à Marseille, et donc mon premier souhait était de trouver vite un village, parce que je suis née à la campagne, mes parents étaient agriculteurs, et donc j'en avais vraiment assez de la ville. Je voulais élever mes enfants à la campagne, où on pouvait aller à l'école à pied, faire plein d'activités à pied, et être proche quand même de la ville, parce qu'il y a des choses très sympas à la ville, mais quand même donner à mes enfants la chance de voir des arbres, du vert, voilà.
On suit la rue.
Au bout du troisième enfant, j'ai décidé quand même d'arrêter de travailler, pour l'instant. Et donc ce qui me permet d'emmener mes enfants le matin à l'école à pied, avec le pédibus. Alors le pédibus, c'est... quelques parents qui accompagnent à tour de rôle les enfants à l'école. Donc chaque matin, c'est un groupe d'enfants entre 6 et 14, selon les matins, qui vont à l'école à pied. Donc on a un trajet qui fait à peu près 1 km.
On tourne à gauche et nous verrons l'église.
Il y a un tiers qui est le long de la nationale, donc ça c'est pas terrible parce qu'il y a un peu d'échappement, il y a le bruit. Et ensuite, on bifurque, on passe donc entre la poste et la médiathèque, et là, on pousse un grand ouf. Il y a moins de voitures, il n'y a plus de bruit, on n'est plus obligé de tenir la main des enfants, c'est plus convivial, jusqu'à l'école. L'école élémentaire et l'école maternelle.
On tourne à gauche. Et nous voyons le clocher.
Un enfant qui s'élève sur la Bouilladis, eh bien, il est tout autre qu'un enfant qui s'élève à Marseille ou dans les grandes villes. Pourquoi ? Un enfant qui est à Bouilladis peut se promener à l'âge de 10 ans, 11 ans, faire du vélo, sans que personne interpelle, sans que personne ait peur.
Prenez le temps de regarder sur votre droite les toits noirs. Vous les verrez bien en longeant l'église.
Regarde sur la droite, tu te rappelles ce qu'il a fallu faire au moment des logements sociaux pour juste faire circuler l'idée qu'on pouvait habiter dignement dans de beaux espaces avec de belles hauteurs. Et le tollé qu'on s'est pris parce que ce toit n'était pas conforme à...
Quand tu parles de beaux espaces, je ne suis pas sûre du tout qu'on fasse l'unanimité sur cette chose-là, parce que bon, il faut... C'est vrai que l'architecture de cet immeuble est volontairement provocatrice dans ce lieu-là, parce que les gens s'attendaient à un toit de tuiles, à un joli petit mas provençal. Et nous, c'est vrai que on a eu la chance que Rudy Ricciotti travaille pour nous, parce que c'est vrai que c'est quand même un immeuble particulier, quoi.
On contourne l'église.
Le toit n'est pas arrivé comme ça par hasard, parce qu'il a fallu créer un peu plus de logements. Ça nous évitait aussi des pénalités, hein, il faut dire. À un moment donné, c'était ça de moins à faire payer aux impôts des bouilladiciens. Donc c'était un choix aussi économique de faire des hauteurs de toit qui permettaient... Alors après, effectivement, c'était pas de la tuile provençale qui pouvait tenir sur cette pente-là. Cet immeuble-là a été rapproché des casernements. On nous a dit, mais vous amenez les Alpes à la Bouilladis, qu'est-ce que c'est cette architecture ? Bon, mais voilà, c'est des petits bouleversements comme ça qui font qu'effectivement, c'était quelque chose de différent. Mais on a fait le choix de loger des personnes.
Que d'histoire, écoutez. Non, mais c'est vrai. Moi, quand j'y repense, si je suis tranquille, je repense un peu à tout ça, je me dis, mon Dieu.
Alors, la vie quotidienne à la Bouilladis, eh bien, ça reste quand même le village.
Qu'est-ce que ça a changé ? Tout change, c'est drôle. Mais c'est bien. Et c'est très bien.
On passe l'église, on passe les barrières de l'église.
Ça, moi, je l'ai vu. J'ai vu tous ces changements.
Donc, la Bouilladis, on y est bien.
Descendez la côte.
C'est pas les beaux de Provence, mais on s'y sent bien.
Moi, je trouve qu'il y a eu de belles, belles choses de faites.
Vous arrivez sur la route. Attention, elle est passante. Prenez le passage piéton.
Ah oui, 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 oui. Quand je regarde en arrière, je me dis, bon, mais c'est bien. Je suis satisfaite. Ah oui, 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 oui. Je suis vraiment satisfaite de voir mon village comme ça.
Dirigez-vous vers la gauche.
Moi, j'aime bien la Bouilladis parce qu'il y a quand même beaucoup d'activités, surtout pour les enfants. Les mercredis sont chargés.
Vous longez les barrières de bois.
Je suis arrivée à la Bouilladis en juin 2007, donc ça va faire 6 ans. Et quand on est arrivé en septembre, mon fils rentrait à l'école maternelle. Et c'est vrai qu'on est arrivé à la Bouilladis un peu par accident, entre guillemets. En travaillant, moi, dans la région, la Bouilladis, je voyais ça comme une ville traversée par une route, en fait. Voilà, je ne m'étais pas posé la question.
Et vous devez apercevoir les barrières jaunes des petits escaliers qui descendent jusqu'au tennis.
Et après, le fait de créer du lien, de connaître beaucoup de gens, de voir qu'il y avait plein de choses à faire à la Bouilladis, j'ai complètement occulté le fait que ça soit un village traversé par une route. Pour moi, c'était un village où on pouvait faire plein de choses. Enfin, je ne vois pas comment on peut s'ennuyer à la Bouilladis. Il y a toujours plein de choses à faire.
Devant les tennis, à gauche. On remonte la voie ferrée en longeant les tennis.
Et là, on longe la voie ferrée, on va arriver devant l'école et la mairie. Et qu'est-ce qu'on fait? On va monter sur la passerelle. Alors pourquoi il y a une passerelle en face à la mairie? Ben, il faut savoir pourquoi. On a créé la voie ferrée en 1868, inauguration, au mois de janvier 1868. On transportait le ciment, on transportait le charbon sur Marseille. Donc on a créé cette fameuse voie de Valdonne qui relie le bassin minier à Aubagne et Marseille. Mais les gens qui venaient du Pigeonnier, des Boyers, les quartiers les plus éloignés de la commune, il fallait qu'ils traversent la voie ferrée. Elle n'existait pas, la passerelle. Il fallait qu'ils fassent un grand tour pour venir faire les papiers à la mairie et emmener les enfants aux écoles. Les routes n'étaient pas condamnées, c'était boueux. Ils ont commencé à faire des pétitions, ils ont commencé à rouspéter les gens. Hein. Ça n'a pas changé, remarquez. Donc la mairie a demandé à la CNCF, au PLM, c'était pas encore la CNCF, hein, c'était le PLM, Paris-Lyon-Méditerranée, ça s'appelait à l'époque. Ils ont demandé de faire cette fameuse passerelle. Et ils ont mis des conditions draconiennes à la compagnie de voie ferrée, en leur imposant un gabarit assez important parce qu'ils avaient la perspective de doubler la voie. Donc, vous voyez, c'était déjà un moyen de transport important. Et la mairie a fait faire des devis. C'est un artisan d'Aubagne qui s'appelle Artufel qui a fait la passerelle. Ça nous a coûté 2730 francs à l'époque. Et ça a été mis en place en 1894, donc quelques années après l'ouverture de la mairie, 5 ans. Et cette passerelle, elle existe toujours, on s'en sert toujours, mais on paye toujours une redevance à la CNCF parce qu'on emprunte la voie ferrée.
Notre prochain arrêt, c'est la passerelle qui est face à vous.
Moi, je me souviens quand on était minots, on allait à l'école à pied, bien sûr, et le train, il passait dessous. C'était les machines à vapeur qui marchaient à charbon, bien sûr. Le machiniste, il nous voyait dessus la passerelle pour nous regarder passer des wagons pleins de charbon. Et quand il passait sous la passerelle, il envoyait un coup de vapeur énorme, noir, mais alors on était noir. Et le béret, pouf, il partait souvent en bas sur les wagons de charbon.
Quand vous arriverez à la passerelle, vous monterez dessus. On monte sur la passerelle. Votre paysage, c'est les arbres.
Je suis sur la passerelle, effectivement, tournée vers l'est de la commune. Et j'ai face à moi les collines et l'espace vert, l'écrin de la commune. Le mont de Regagnas, qui est le plus haut sommet de la commune. Et tout ce patrimoine forestier que nous avons, puisque la commune comporte près de 800 hectares, un espace boisé classé, qui est le poumon vert de la commune et qui est apprécié énormément par les habitants qui peuvent s'y promener hors période bien sûr sensible. Tout de suite, sur la gauche, nous avons des grands champs qui étaient des champs de poiriers à l'époque, qui vont être occupés par les espaces sportifs du lycée. Un petit peu plus loin, donc en continuant vers l'est et toujours en restant dans cette partie du terrain, le lycée sera là bien là en partie basse. Et l'aménagement se fera, l'aménagement de logement se fera plutôt dans la partie nord, un petit peu à flanc de colline, aux abords de la collinette, aux abords de l'espace boisé que l'on préservera bien sûr et qui sera utilisé éventuellement par les riverains en zone piétonnière. Et dans la partie complètement à l'est, au pied de cette forêt très boisée que nous voyons là, eh bien, on va tout simplement y faire du logement individuel de façon à justement conserver là ici aussi un espace assez clairsemé au niveau de l'habitation pour que la nature garde tout à fait sa place.
On quitte la passerelle, on descend vers l'école, on traverse la rue.
C'est dans cet espace-là qu'il a été prévu par notre plan d'occupation des sols d'agrandir un petit peu notre commune. Et nous avons donc en projet d'aménager une zone dans cet espace-là qui comprendra des logements, bien sûr, mais aussi un lycée et puis des espaces publics. Donc c'est bien cette partie-là qui est l'avenir de la commune, en continuité, comme on peut le voir justement, de l'urbanisation actuelle.
Allez, on revient sur nos pas en prenant le trottoir bordé de platanes.
Ce que nous voulons faire, c'est créer un nouveau centre urbain pour la commune, sans faire des immeubles de grande hauteur, mais des petites résidences de 2-3 étages qui permettront donc à la jeunesse de ce pays de rester dans le village, à d'autres personnes de venir s'y installer aussi, et tout simplement de créer vraiment un centre-ville, chose que nous n'avons pas actuellement par la traversée rectiligne de la nationale 96, de la départementale 96.
Vivement que la voie de la Valdonne soit réaménagée, qu'on puisse prendre le tram, que le trajet soit plus fluide. Et vivement aussi la seconde sortie d'autoroute entre Belcoden et la Bouilladis, parce que vraiment je pense qu'il y a urgence pour gagner du temps, pour éviter, pour moins de pollution aussi dans le village, au centre du village. Donc j'attends l'avenir avec impatience.
On va essayer de réduire à minima l'utilisation de la voiture dans cet espace, et cela sera possible grâce justement à la voie de Valdonne. La voie de Valdonne sur laquelle nous sommes là ici, et qui part, comme son nom l'indique, de Valdonne, et qui va rejoindre la gare d'Aubagne, doit permettre de mettre un tram-train sur cet espace-là, qui va relier justement la Bouilladis à Aubagne, avec des stations dans toutes les communes au fil de la vallée jusqu'à Aubagne. Il n'y en a que deux actuellement sur le plan national, c'est du côté de Strasbourg et dans la région parisienne. Voilà, c'est tout simplement un moyen de déplacement qui permet de traverser à la fois des zones urbaines et des zones de rase campagne, avec naturellement des vitesses différentes et puis une adaptation en fonction des besoins de la population de se déplacer dans ce secteur.
Le monsieur avec sa brouette. Cette avenue va nous ramener sur la grande rue.
Et après, quand on retourne, et quand on arrive vers la nationale, alors là, il y a le cercle d'en bas. Tout à l'heure, c'était le cercle d'en haut, et en bas, c'est le cercle d'en bas. Et tous les deux se retrouvaient au milieu du village, et ça y allait. Parce qu'ils n'avaient pas les mêmes opinions, voilà.
Dès l'instant où on veut côtoyer du monde avec toutes les associations qui existent à la Bouilladis, autant culturelles, sportives, participatives, artistiques. C'est facile, c'est facile. Donc la Bouilladis, ben, on y est bien.
Vous voyez le boulodrome ? Faites comme bon vous semble, par le trottoir ou par le boulodrome, on va vers la grande route. Quand vous arriverez sur la grande route, ce sera à droite.
À qui il est ?
Quand ils jouent mal, c'est le terrain qui n'est pas normal. Voilà. C'est pas qu'ils jouent mal, c'est le terrain qui n'est pas normal. Et ils frappent toujours mal. Toujours.
Je suis née à la Bouilladis en 1941 et je n'ai jamais bougé de la Bouilladis. Voilà. J'habite ici, mes parents sont natifs de la Bouilladis et mes grands-parents sont natifs de la Bouilladis. Bon, j'ai connu ce village avec très peu d'habitants, bien entendu, et puis ça s'est agrandi petit à petit. Et mon ami, M. Francis Pellissier, qui était alors maire, me convoque un jour en me disant « Voilà, je voudrais que tu viennes avec moi dans mon conseil municipal. » Alors j'étais étonnée au premier abord, parce que bon, c'est vrai que je m'occupais d'associations, je donnais la main quand il fallait servir les repas des anciens, je faisais beaucoup de bénévolat, vous voyez. Et partant de là, il me dit, mais moi j'aimerais que tu viennes avec moi. Je lui dis, mais je n'en serais pas capable, quoi. Vous savez, les femmes à l'époque, bon, on était à la maison, surtout à la maison, on s'occupait du foyer, des enfants. Et c'était en 82. Alors, j'ai dit, bon, si tu crois que j'en suis capable, moi, je veux bien essayer. Alors, oui, on va faire une liste, tu te mettras avec nous. Et voilà comment je suis arrivée dans le conseil municipal. J'ai été bien acceptée par tous les collègues qui étaient masculins, sauf Mme Castellani, qui était déjà avant moi dans le précédent conseil municipal et qui est restée. Et je me suis mise au travail. J'ai compris que j'étais là, il fallait travailler. Travailler pour la population, travailler pour le village.
Si vous êtes sur la grande route, c'est à droite pour retrouver la place de la mairie.
Au départ, j'ai eu le social, les fêtes et cérémonies. Et je voulais que tous les habitants, tous ceux qui étaient là, les anciens et les nouveaux qui arrivaient, se sentent bien. Donc, je faisais du social. On invitait, je vous mets le cœur, le troisième âge, pour faire un repas. Je faisais toutes les lettres à la main, des adresses aussi, il n'y avait pas d'ordi à l'époque, et j'allais distribuer mon courrier dans les boîtes aux lettres. Et à mesure que je passais, on me voyait, on m'appelait, mais c'est pourquoi. Et je parlais, je connaissais tout le monde dans les villages, je connaissais par leur nom, leur adresse. Quand on me demandait cette personne, ben elle est là, elle habite là, elle est seule, elle est âgée, elle est malade, elle est... Ça me passionnait parce que je connaissais tout le monde. Et du coup, j'ai fait 4 mandats. Alors, j'ai fait les 2 premiers mandats, oui, en tant que conseillère municipale. C'est là, après, j'ai fait 2 mandats comme adjointe au maire. J'aimais ce contact avec les gens, avec... ça m'a manqué beaucoup, ça m'a beaucoup manqué au début, d'ailleurs. Monsieur Julien m'a dit, il ne faut pas que tu t'arrêtes complètement. Alors, je suis quand même au CCAS, à faire avoir une réunion, à voir. Je n'ai pas tout coupé, je n'ai pas coupé toutes mes activités d'un coup. Non. Mais quand je vous dis ça, c'est... Comment je vous dirais ? Il y a quelque chose en moi là, qui m'attire. Vous savez, on dirait un aimant. C'est drôle, c'est fou. Ouais. J'ai besoin de savoir, j'ai besoin de m'investir, de savoir, d'aider, de... Voilà.
On prend la rue sur la droite pour retrouver la place de la mairie.
À médiathèque ? Ah oui. Moi, j'y vais régulièrement. je prends mes livres, je les ramène, je... Ah oui, je les regarde, mais ça me plaît. Voilà, là, il y a eu aussi la polémique, parce que, bon, bien sûr, à l'époque, ça s'est trouvé à l'époque des élections municipales. Bon, il y avait une... le groupe d'opposition qui disait que c'était pas nécessaire, qu'il fallait pas... qu'on était fous, quoi, que c'était de la folie de mettre une médiathèque comme ça dans un village. Et puis après, ben, ils se sont rendus à l'évidence, ils ont bien vu que c'était très bien.
Moi, je trouve ce village très beau, de toute manière. Je suis fan de ce village. Je suis arrivée il y a 20 ans par amour. Et je me suis toujours posé la question, mais il n'y a pas de hasard dans la vie.
La gorge s'entrouvre près d'un grand village bâti sur les bords de la route d'Aubagne à Aix. C'est la Bouilladis, type de ces quartiers bas des bourgs de Provence, construit depuis que le rôle militaire de ceux-ci a pris fin.
Les gens qu'on rencontre, les lieux où on vit, les chemins qu'on emprunte, il n'y a jamais de hasard. Et ce village, moi, il me touche de plus en plus. Quoi que j'y fasse, je suis toujours émerveillée. La beauté de nos collines, mais il faut voir quand on marche sur le bord de nos routes, les petites fleurs, je sais pas, c'est magnifique. Mais il n'y a pas que ça, il y a surtout la richesse des gens.
Les auberges, la gendarmerie, de belles écoles, quelques ateliers de charron ou de maréchal, des magasins nombreux constituent un petit centre vivant grâce au mouvement de la route et à la gare voisine et surtout aux nombreux ouvriers des mines et des fabriques de ciment.
Alors la vie quotidienne à la Bouilladis, eh bien, ça reste quand même le village.
Que d'histoire, écoutez, non mais c'est vrai.
N'importe où on se trouve, on peut éventuellement prendre le bus à la demande. On téléphone à la mairie et on peut commander un bus à la demande.
Ce bourg industriel, très banal par ses constructions, ne manque pas de grandeur par la beauté de son paysage.
Moi, je trouve qu'il y a eu de belles, belles choses de faites.
Ce bus qui vient nous chercher au bas de son immeuble, au bas de sa maison, devant son portail.
C'est un vaste cirque de Mont-Rocheux, boisé de pins.
Ah oui. Quand je regarde en arrière, je me dis, bon, mais c'est bien.
Les premières pentes sont disposées en terrasse et cultivées avec soin. Les eaux du Merlançon, captées, irriguent des prairies et des jardins.
Je suis satisfaite. Ah oui. Je suis vraiment satisfaite de voir mon village comme ça.
Extrait de Voyage en France, d'Ardoin et Dumazet, 1898.
Ben voilà, la balade s'achève, on est de nouveau sur cette place, donc, qui est vraiment très emblématique de ce village. J'y reviens, mais c'est vrai que j'y tiens. Et moi, quand je suis sur ce lieu-là...
Ah là,
là,
mon village, qu'on ne me dise pas de mal. Si on me dit, celui qui me dit du mal de mon village, il a pas un dessus, vous savez. Je peux me montrer virulente avec.
Poser nos valises et arriver avec nos enfants.
La richesse des contacts qu'on peut avoir, des combats aussi qu'on mène. Hein, ça crée des liens, ça, ces combats, au travers des écoles, tout ce qu'il a fallu à chaque fois se battre pour préserver.
Pour arriver un jour à la Bouilladis. Et ce village, quand je suis arrivée, ben, il a fallu que je trouve les clés. Voilà. Donc, et une fois qu'on a trouvé les clés, eh bien, on ne veut plus en partir.
C'est une chose qui nous lie et qui nous rend de beaux, peut-être, je trouve, à un moment donné, de l'intérieur, simplement.
C'est un bijou pour moi. C'est un bijou dans un écrin de verdure.
Donc, je ne veux pas partir. Voilà. Et j'espère que vous non plus. Vous partirez avec regret de ce petit coin-là, qui n'est pas une carte postale provençale, qui n'est pas Cassis, qui n'est pas un village sur lequel on va s'ébahir, mais qui est par contre un endroit dans lequel il fait bon vivre. Voilà.
J'attends l'avenir avec impatience.
Aujourd'hui, c'est gratuit chez Vincent.
Le garde en otage.
C'était hier.
Ah, c'était hier. Il y a un autre. Salut-toi.
C'était Empreinte, une promenade sonore préparée et guidée par des habitants de la Bouilladis. Réalisation et mixage, Nelly Fléchère, Tony Regnault.
Vous voilà de retour ici. Vous pouvez retrouver d'autres promenades sonores sur le site www.promenade-sonore.com. Les promenades sonores sont un projet de Radio Grenouille Euphonia, en coproduction avec Marseille Provence 2013, capitale européenne de la culture, avec le soutien de la SACD et du programme Services numériques innovants du ministère de la Culture et de la Communication.